Miga, some Miga, make Iran great again. Non, et lui, il défend les intérêts américains de par le monde. Il s'en fiche. Regardez ce qu'il a fait au Venezuela. Mais il y a un droit international qu'il faut respecter quand même.
Bonjour à toutes et à tous, toujours un plaisir de vous accueillir dans le temple du gai savoir. Zoom Zoom Zen, 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses expressions et parfois ses acronymes. Aujourd'hui, si je vous dis MAGA, évidemment, pas besoin de vous faire un dessin, vous voyez Donald Trump esquisser des petits mouvements du bassin extrêmement gênants sur YMCA des Village People, ses deux mains effectuant des moulinets tout aussi gênants, sur sa tête, une casquette siglée MAGA, Make America Great Again. Une des manières de rendre l'Amérique meilleure à nouveau, c'était, je rappelle ses promesses de campagne, de se concentrer sur l'Amérique et en évitant d'aller se mêler des affaires de pays lointains, si lointains d'ailleurs, qu'on n'était pas sûr d'où ils étaient vraiment. Un an plus tard, Trump a réussi un coup de force au Venezuela et il vient de déclencher une guerre en Iran. Voilà pourquoi il est temps de zoomer aujourd'hui, non pas sur MAGA, mais sur MIGA, Make Iran Great Again. Selon l'expression utilisée par Trump lui-même dans un tweet l'été dernier, une stratégie qui est loin de faire l'unanimité au sein même du camp trumpiste qui se fissure et où on s'engueule de plus en plus ouvertement sur l'Iran. C'est simple, on dirait un jeudi soir à Zoom Zoom Zen quand on s'est enquillé 4 heures d'enregistrement et que Manon et Quentin peuvent plus se blairer.
Je ne veux pas qu'on en parle, je ne veux pas qu'on
Je ne veux pas qu'on en parle.
Ça, c'est quand même prendre du vin blanc.
Ça la rend mauvaise.
Ça rend du vin rouge.
Alors, MIGA va-t-elle faire exploser MAGA? Comment les Trumpistes vivent-ils la décision de Trump d'attaquer l'Iran? Quels sont désormais les scénarios pour les Américains, à la fois sur le plan extérieur et intérieur? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Noël.
Et bonjour Gilles Gressani.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter. Vous êtes analyste politique, directeur de la revue Le Grand Continent, qui publie les contributions d'écrivains et de personnalités politiques et universitaires. Revue éditée par le think tank Groupe d'études géopolitiques que vous avez aussi cofondé. Avec vous, on va comprendre ce qui se cache derrière l'acronyme MIGA, Make Iran Great Again, utilisé par Trump donc en juin dernier la première fois, et surtout les divisions que ça provoque au sein même du camp trumpiste. Juste le temps de vous présenter deux journalistes frappés de plein fouet par la folie de Donald Trump. Alors je sais, vous allez me dire, en quoi Manon et Quentin, qui résident tous les deux à Paris, sont-ils impactés par la guerre au Moyen-Orient? Eh bien, c'est très simple. Demain, c'est mercredi. Et normalement, le mercredi, toute l'équipe se retrouve à la table du Zaman, le meilleur restaurant libanais du 16e arrondissement. Seulement voilà, à la lumière des dernières infos qui nous parviennent, et vu que les missiles iraniens continuent de tomber sur le Hezbollah, Cyril, notre rédacteur en chef prévoyant, a décidé que le Zaman était une cible potentielle. Nous ne pouvions donc pas prendre le risque d'y déjeuner. On fera donc une cantine express, cantine où l'expression « à la guerre comme à la guerre » prend d'ailleurs tout son sens. Manon Mariani, Quentin Louis, bonjour.
Bonjour
à tous.
On embrasse quand même nos amis libanais.
Mais évidemment, puis ça se trouve, on ira, parce qu'on est courageux.
Et nos amis de la cantine.
Évidemment. Exactement. Manon, dans votre pièce jointe aujourd'hui.
Une autre expression qui nous vient des États-Unis aussi, mais qui désigne cette fois-ci une critique envers la politique de Donald Trump. Spoiler, elle désigne aussi un plat mexicain succulent et tout petit.
Et vous vous y connaissez, en plat mexicain.
Ça.
Et vous connaissez-vous l'acronyme MIGA? Que pensez-vous de la tactique, si tant est qu'il en ait une, de Donald Trump en Iran? Quentin est allé vous poser la question avec sa casquette MAGA. Make Alençon Great Again.
Évidemment, dispo à la vente sur mon Instagram. Alors, pas l'acronyme le plus simple encore, MIGA. Eh bien, dans la rue, on regarde la guerre, on regarde les chaînes d'info et on a toujours son mot à dire. Vos réactions complètement à la rue, c'est dans la prochaine demi-heure.
Est-ce vraiment la première fois que les États-Unis cherchent à déstabiliser une dictature au nom de la liberté, mais accessoirement pour en tirer un profit économique? Non. Mais les précédentes administrations avaient le bon goût de faire ça discrètement. Dans le Zoom Zoom Test, nous jouerons avec les opérations les plus foireuses, signées USA. Vous verrez que ça se passe surtout en Amérique du Sud. Après 17h, restez avec nous, on accueillera une légende du cinéma, Jean-Jacques Haneau, à l'occasion de l'expo qui lui est consacrée, qui s'ouvre à Paris vendredi. Mais d'abord, Gilles Gressani, on va zoomer avec vous sur cette guerre déclenchée en Iran par Trump et cet acronyme. La première utilisation de MIGA par Trump date de juin 2025. C'était dans un message sur son réseau social où il écrivait « Ce n'est pas politiquement correct d'utiliser le terme changement de régime, mais si le régime iranien ne parvient pas à rendre sa grandeur à l'Iran, Make Iran Great Again, pourquoi n'y aurait-il pas un changement de régime ?» MIGA. MIGA, c'était donc une manière de préparer l'opinion publique américaine à une intervention américaine en Irak, en Iran.
C'est un lapsus qui dit beaucoup de choses, mais je pense justement, en fait, je ne vais pas dérailler, je ne vais pas faire l'invité qui dit c'est compliqué, c'est pas le bon angle, mais en fait, ouais. Je me demande en fait en réalité si quand on dit qu'il y a une préparation de l'opinion publique de la part de Donald Trump, on ne fait pas un peu fausse route.
Ah.
Parce qu'en fait, ce qui est vraiment différent entre l'Iran et l'Irak, si on prend deux exemples qui sont assez proches, c'est que l'Irak a été préparé longtemps. était préparé d'ailleurs avec des arguments totalement foireux, on s'en souvient. Mais l'opinion publique faisait partie de cette équation. Et je pense que c'est ça la vraie rupture. On est habitué à des présidents des États-Unis qui court-circuitent les institutions pour faire la guerre. C'est d'ailleurs une des choses assez impressionnantes. En fait, le vrai axe jupitérien se retrouve à la Maison-Blanche. Mais ce qui était vraiment difficile à imaginer, c'est qu'une guerre de cette ampleur, de cette envergure, puisse être déclenchée
sans consulter son peuple.
Sans en faire part, en fait. À mon avis, il y a un moment qui exprime très bien ça, c'est que vous savez qu'aux États-Unis, il y a un moment très scripté, très important, c'est le discours du State of the Union, le discours de l'État de l'Union. Et il a eu lieu quelques jours avant le déclenchement de l'opération en Iran. Et l'Iran est cité, mais presque pas tout à fait. En fait, c'est très significatif. Donald Trump est en train de faire la guerre, non pas comme un chef de guerre démocrate, mais comme quelque chose de différent. Donc il faut se poser la question de pourquoi. Et en même temps aussi, il faut se poser la question de quel type de guerre il pensait pouvoir faire.
Mais peut-être tout simplement qu'il improvise, non ?
C'est sûr, mais en fait, probablement, il avait en tête quelque chose qui n'était pas vraiment une guerre d'envergure, c'était plutôt une opération militaire spéciale, voilà. Vous voyez ? Il avait en tête ce qu'il avait réussi au Venezuela, il avait en tête, soit dit en passant, ce que sans doute Vladimir Poutine aurait voulu faire en Ukraine. C'est-à-dire une opération de décapitation faite par le centre de l'Empire vis-à-vis d'une région éculée et lointaine dont on ne reconnaît pas tout à fait la légitimité. Et le fait qu'aujourd'hui il soit pris dans une logique de guerre le met dans une position très difficile. On a fait avec le Grand Continent une agrégation de différents sondages. Il y a une dizaine de sondages crédibles qui ont été sortis aux États-Unis depuis le déclenchement des opérations. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la guerre aujourd'hui en Iran est sans doute depuis la Deuxième Guerre mondiale, la guerre avec le moins de soutien dans l'opinion publique aux États-Unis. Ce qui en fait s'explique précisément pour cette raison-là, c'est qu'en fait il n'y a pas eu vraiment de préparation, et donc évidemment c'est très difficile en démocratie d'engager un peuple dans une guerre qu'on n'a pas préparée et qui ne semble pas majoritairement voulue par l'opinion publique.
Comment Donald Trump peut-il se sortir de ce bourbier dans lequel il s'est mis tout seul ? On va en parler. Visiblement, ses divers projets immobiliers se portent bien, car il est, une fois n'est pas coutume, d'excellente humeur. Aujourd'hui, juste avant l'antenne, il me disait encore...
Est-ce que tu ne voudrais pas que ta copine soit aussi chaude que moi ?
Certes, Cyril, j'en serais ravi, mais là n'est pas vraiment la question, puisque votre mission ici est de nous raconter l'origine de notre mot du jour. Alors,
j'ai tout imaginé en quelques secondes.
Oui, terrible. Moi aussi, j'ai visualisé. J'avais pas envie. Miga, d'où ça sort ?
Imaginez quoi que... Non, vous la connaissez bien maintenant, cette casquette de baseball rouge vif avec ses quatre lettres blanches, MAGA, Make America Great Again. Depuis 2015, c'est devenu plus qu'un slogan de campagne, c'est une marque mondiale. Un cri de ralliement, une insulte pour les uns, une religion pour les autres. Donald Trump a d'ailleurs déposé la marque en 2012. Jamais avare d'un bobard, le président américain a dit que c'était même lui qui avait inventé ce MAGA et qu'il devrait d'ailleurs toucher des droits d'auteur.
Mais c'était pas le cas.
Et non, pour trouver le créateur de cette formule magique, il faut remonter à 1980. L'Amérique est en pleine dépression, l'économie va mal, l'inflation explose et des otages américains sont retenus en Iran déjà. Le président démocrate Jimmy Carter parle du malaise américain. C'est là qu'arrive un ancien acteur d'Hollywood avec un sourire éclatant, Ronald Reagan. Pour redonner le moral à son pays, Reagan lance son slogan de campagne « Let's make America great again ». Dans la bouche de Reagan, c'est un message très optimiste, presque joyeux. C'est la promesse d'un matin nouveau. Bien avant 2016, on va la voir réapparaître, cette formule, dans un discours en 1991. Encore pour l'annonce d'une candidature à la Maison-Blanche. Et c'est Bill Clinton qui va dire « Ensemble, nous pouvons rendre sa grandeur à l'Amérique ». Le coup de génie de Donald Trump, c'est d'avoir enlevé le « let's », le côté collectif, pour en faire un ordre direct, « make », beaucoup plus efficace. Alors, d'où ça sort MAGA ? Eh bien, de la preuve qu'en politique, on n'invente jamais rien, on recycle, et c'est le début de notre histoire.
Merci Cyril. Les nouvelles de votre ami Bill Clinton, dont vous avez été le garde du corps, il faut le rappeler quand même.
Il va très bien.
Il se porte bien, très
oui,
bien.
Oui, oui.
L'affaire Epstein, ça se passe bien.
Oh, écoutez.
Plus de jacuzzi. Bon.
Merci Cyril. Gilles Gressani, on le rappelle, il y a des élections capitales en novembre aux États-Unis. Politiquement, est-ce que l'expédition américaine en Iran est un gros risque pour Donald Trump?
Oui, c'est évidemment un gros risque, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut se poser la question de pourquoi il est pris. C'est-à-dire qu'au fond, moi j'ai l'impression que ce qui se passe aux États-Unis est désormais quelque chose qui ressemble beaucoup plus à une révolution qu'à une gestion normale des affaires politiques. Quelque part, si vous voulez, en une année, Donald Trump elle est trop loin et pas assez en même temps, et c'est assez typique des moments révolutionnaires, c'est le problème de l'an 2. Vous avez fait trop, mais en même temps, tout le monde est là. Les institutions sont encore là, vous avez encore le Congrès, vous avez encore la Fed, vous avez encore la Cour suprême. On a vu d'ailleurs que ça peut être assez embêtant d'avoir une Cour suprême qui fonctionne. Vous avez encore une opinion publique qui n'est pas convaincue encore de vivre dans un système autoritaire. Les États-Unis, c'est pas la Russie, et Washington, c'est pas Moscou. Et en même temps, on voit très bien que Donald Trump et son clan sont allés trop loin. En fait, c'est très difficile d'imaginer qu'il puisse y avoir ce qu'on appelle un peaceful transfer of power, c'est-à-dire un passage pacifique des pouvoirs au cas où il y a une défaite. Et donc, il y a une chose qui se retrouve un peu dans l'histoire, l'histoire classique, l'histoire romaine, c'est que quand vous avez une hésitation entre, d'un côté, l'empereur et de l'autre côté, le Sénat, c'est la Légion qui décide en dernière instance qui des deux gagne.
Donc là, l'armée.
Et donc là, on voit effectivement cette logique qui, depuis le début de cette année, est devenue extrêmement prégnante. Au fond, c'est une espèce de contrôle manuel de l'armée de la part du président des États-Unis. Et on l'a vu sur deux fronts ouverts extrêmement spectaculaires, le Venezuela et l'Iran. On l'a vu sur un front qui ne s'est pas déclenché, mais qui a produit beaucoup de problèmes, le Groenland. On voit qu'au fond, il y a, du côté de Donald Trump, l'usage de la force et de l'outil militaire, presque dans une forme de contrôle manuel, pour déclencher deux choses. La première, c'est qu'on découvre qui, à l'intérieur de l'armée, nous suit. Et de l'autre côté, quand on obtient des victoires militaires, on fait ce qu'on appelle du césarisme, c'est-à-dire, au fond, on transforme...
Mais là, l'armée le suit.
Mais l'armée le suit, et c'est d'ailleurs effectivement la question. C'est jusqu'à quel point...
Elle va le suivre.
Jusqu'à quel point, aujourd'hui, l'armée est fidèle à la République. En fait, le problème de Trump, c'est qu'on le prend toujours... Enfin, on a toujours du mal à le prendre au sérieux. En fait, c'est toujours un peu une voix qui est très bizarre, d'ailleurs. Enfin, on a presque l'impression que c'est un peu un petit enfant qui fait
un personnage,
qui fait des bêtises. Mais quand on regarde le 6 janvier, le moment dans lequel, effectivement, c'est un putsch raté. En fait, pourquoi il est si caricatural et si raté? C'est parce que l'armée a pris position très clairement dans les mois précédents, en disant, effectivement, nous sommes fidèles à la République. Et aujourd'hui... On peut se dire que ce qui est en train de... Une des dimensions qui est en train de se jouer aujourd'hui aux États-Unis, c'est jusqu'à quel point Donald Trump sera capable d'utiliser l'armée sur le front interne en faisant un spectacle militaire permanent avec des grandes conquêtes en disant on a rendu plus grande l'Amérique géographiquement, on a étendu le territoire, on a pris Cuba, on a pris le Groenland, on a fait l'Amérique plus grande géographiquement, et de l'autre côté, en purgeant ou en sélectionnant des membres de l'armée.
Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Pourquoi se contenter de Make America Great Again quand on peut en plus Make Iran Great Again? Zoom cet après-midi sur l'acronyme MIGA. Cet après-midi dans Zoom Zoom, on est toujours avec l'analyste politique directeur de la revue Le Grand Continent, Gilles Gressani. Gilles, au-delà de Trump dont on a parlé, il y a un personnage clé dans l'administration américaine qui incarne ce MIGA, c'est Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense. C'est quoi son influence exacte auprès de Donald Trump et qui influence qui?
C'est d'ailleurs le secrétaire de la guerre, c'est comme ça que désormais ils envisagent de se présenter. Le changement du ministère de la défense à un ministère de la guerre
dit beaucoup.
Est symptomatique. C'est une figure qui est tout à fait typique du nouveau Trumpisme, parce que c'est une star de la télé. C'est un opinionniste de Fox News très très bon dans la performance, qui a une œuvre littéraire, avec une qualité qu'on pourrait juger comme médiocre, mais qui a écrit plusieurs livres, effectivement, avec cette espèce de jonction qui est très présente dans le Trumpisme entre une dimension plutôt masculiniste, le hard power, la nécessité d'affirmer sa puissance. C'est en fait une transformation assez profonde de la puissance américaine qui a toujours su articuler plusieurs niveaux. Niveau soft power, avec un niveau hard power, avec un niveau, en fait, fondamentalement de convergence planétaire. Une des choses qui est très remarquable de la puissance américaine, c'est que elle a toujours refusé de se autodéfinir comme un empire. Il y a un discours très important de George W. Bush, qui pourtant fait quand même assez interventionniste, qui dit « Les États-Unis ne seront jamais un empire ». Et en fait, en réalité, on comprend ce qu'il voulait dire. C'est qu'il voulait dire que ce que les États-Unis essayent de faire, c'est de structurer un niveau qui est plutôt infrastructurel. Évidemment, il y a des bases partout dans le monde. Évidemment, il y a la capacité de changer des régimes ou d'être aussi dans l'usage de la force d'une manière très, très virulente. Par contre, il y a quand même une façade. Et cette façade est importante parce que c'est, au fond, le rêve américain qui compte.
Et c'est cette façade qui se fissure aujourd'hui avec Trump.
Et quelque part, c'est ce que Hegseth met en avant, c'est que cette façade est une source de faiblesse et qu'il faut revenir, en réalité, à une forme beaucoup plus explicite de domination.
D'impérialisme.
Et en fait, du coup, on retrouve une grammaire qui est vraiment impériale. Et c'est là que, à mon avis, il y a un problème structurel. C'est que on a l'impression que dans cette performance de la force, en réalité, on a plutôt une inefficacité de celle-ci et un dévoilement d'une faiblesse structurante. Enfin, c'est d'ailleurs une des choses assez remarquables de cette conséquences. Jusqu'à quel point, en fait, ils sont en train de dire on a gagné, on gagne. Et jusqu'à quel point, en fait, il y a vraiment une contradiction vis-à-vis du terrain.
On dit que Donald Trump perd ses soutiens. Je lisais un sondage en fin de semaine dernière qui disait que Trump ne perd pas vraiment sa base MAGA, pour l'instant en tout cas. Il en perd, en revanche, chez les républicains modérés. Comment vous l'expliquez, ça ?
En fait, une des choses vraiment très impressionnantes de Donald Trump, c'est jusqu'à quel point, en fait, il construit un récit qui fascine et qui mobilise d'une manière profonde son mouvement. C'est vraiment une des choses les plus impressionnantes. Si vous regardez, en fait, comment il gouverne par rapport à sa campagne, en fait, il y avait deux thèmes qui étaient structurants. Le premier, c'était le pouvoir d'achat. Et le deuxième, c'était ça suffit avec les guerres à l'extérieur.
Là, on a les deux, puisque le prix de l'essence, j'imagine que.
C'est pas que le prix de l'essence, ça fait le coût de la vie. Ouais. Donc évidemment. Et c'est intéressant parce qu'en fait, il décroche pas sur ces segments-là. En fait, il a construit un spectacle qui est tellement puissant qu'il rentre.
Peu importe ce qu'il fasse.
En fait, il possède, et d'ailleurs lui-même il a dit, c'est moi MAGA, personne d'autre. Et d'ailleurs, c'est l'une des contradictions, c'est qu'en fait, on a des influenceurs MAGA qui essayent d'émerger, qui essayent de dire, en fait, il y a des contradictions évidentes, mais en réalité, sur l'électorat, pour le moment, ils n'ont pas encore de prise.
Mais en parlant d'influenceurs, je pense à Nick Fuentes qui a participé à l'attaque du Capitole en 2021. Il a publiquement annoncé sa rupture avec Donald Trump après le déclenchement de la guerre. Fuentes tient aussi des propos antisémites. Est-ce que Trump peut se permettre de perdre ce genre de soutien aujourd'hui qui ramène quand même aussi une communauté assez jeune à son électorat ?
Mais Nick Fuentes est un symptôme effectivement d'un malaise très profond aux États-Unis. C'est un malaise démocratique extrêmement profond. Vous l'avez rappelé, effectivement, c'est une personne qui ce n'est pas simplement antisémite, il est hitlérien.
Oui.
En fait, il considère son aventure politique comme étant informée par Adolf Hitler. Donc on se rend compte qu'on est quand même assez loin dans la gamme de la radicalisation. Et pourtant, c'est une figure qui a une influence réelle. Il y a un article du New York Times assez important qui avait beaucoup fait parler, qui dit qu'en réalité, 40% à peu près des jeunes cadres républicains écoutent quotidiennement les discours de Fuentes. Fuentes, en fait, c'est un influenceur. Donc, en fait, il utilise les gammes, tous les codes et les gammes du YouTuber, un peu lifestyle. Sauf qu'en fait, à côté du lifestyle, à côté des blagues, il a un prisme qui est systématique, qui est très puissant. C'est une théorie du complot générale qui fait remonter tous les problèmes à une seule cause, l'antisémitisme. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui est propre, en fait, à l'aventure révolutionnaire du trumpisme, c'est que désormais tout est ouvert et surtout il y a un court-circuitement profond de l'espace médiatique. En fait, si vous regardez les choses avec beaucoup de recul, en fait, c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que vous avez des thèses négationnistes, des discours pro-Hitler qui sont portés devant un public généraliste. Mais non pas parce qu'il y a des médias qui le portent, parce qu'en fait, il y a une désintermédiation qui est provoquée par les réseaux sociaux et par les types de nouveaux méthodes de diffusion de la médiatique. Et c'est là qu'il y a un problème pour Trump, c'est qu'effectivement, pour le moment, lui, c'est la figure qui arrive à mettre ensemble ces mondes extrêmement différents. Mais si on imagine un moment que cette figure n'existe plus, que le spectacle trumpiste est interrompu, il restera cette radicalité et elle devra trouver une forme d'expression.
On continue de zoomer sur cet acronyme MIGA. L'acronyme qu'il avait lui forgé pour les municipales de 2020 n'avait pas rencontré le même écho que celui de Donald Trump. Et pour cause, malheureusement pour lui, c'était le même. MAGA, Make Alençon Great Again. Et alors, pourquoi c'est moi qui changerais ? Avait répondu Quentin à ceux qui lui suggéraient de trouver un autre nom pour son mouvement. Vexé, il avait finalement retiré sa candidature pour se consacrer à son autre passion, le micro-trottoir. Alors Quentin, vous êtes allé tester l'acronyme MIGA dans la rue.
Je vadrouille dans Paris avec mon micro France Inter, alors que je me demande bien ce que je vais quand même pouvoir raconter aux gens avec ce truc-là. Je me perds dans mes pensées. Quelle couleur aurait une casquette MIGA ? Verte, le rouge étant déjà pris. Cette dame me sort de ses pensées. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Annabelle.
Est-ce que je peux vous demander votre âge ?
51.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous ?
Prof. Histoire géo.
Ah, ça tombe bien.
Ouais, ça tombe bien. Est-ce qu'elle a vu passer ?
Non, je connais MAGA, mais pas MIGA, non. Ah oui. Là, je pense qu'aux États-Unis, effectivement, dans les Républicains, et même dans ses soutiens assez proches, ils commencent à perdre un petit peu de puissance. Donc après, je ne sais pas qui pourra le stopper. Mais...
Je lui demande si, en tant que prof d'histoire géo, elle en parle avec ses élèves.
Alors, moi, je ne fais pas de géopolitique avec les élèves, mais ceux qui me posent la question, j'essaie de leur expliquer... avec des mots simples, voilà, que bah, ça s'appelle de l'impérialisme américain ou états-unien. Et voilà, et j'essaie de leur expliquer que la situation au Proche et au Moyen-Orient, elle est pas, voilà, c'est pas d'aujourd'hui qu'elle est compliquée.
Quelles questions ils posent ?
Alors, il y en a beaucoup qui posent des questions sur les armes, sur les missiles, voilà, sur ce qu'ils entendent sur les chaînes d'infos en continu, pas forcément sur les causes et sur ce genre de choses. C'est pas forcément sur le fond.
Et je remercie cette prof d'histoire géo. Tiens, j'arrête Jérémy qui sort d'un magasin avec son petit sac en papier craft. Que fait-il dans la vie ?
Je suis étudiant en master histoire à la Cato dans le 6e.
À son tour de découvrir l'acronyme du jour de Zoom Zoom Zen.
Alors, je connaissais l'acronyme MAGA, mais pas MIGA. Ah oui. Oui, parce qu'il avait fait l'engagement lors de son premier mandat. Il avait dit qu'il ne ferait pas la guerre, enfin qu'il ne déclencherait aucune guerre. Et là, on voit que c'est mal barré.
On parle des élections de mi-mandat qui pourraient déstabiliser Trump. Mais pour Jérémy, de toute façon...
Ah bah oui. De toute façon, dans tous les cas, dans 2 ans, dans 2 ans. À moins qu'il modifie la Constitution pour faire un 3e mandat, ce dont on imagine ce qui aurait des conséquences assez graves.
Est-ce qu'on serait surpris ?
Non, on ne serait pas surpris. Ce serait quand même un sans précédent. Dans l'histoire américaine, ce serait un véritable tournant, mais honnêtement, non, on serait pas du tout surpris qu'il le fasse. Mais bon, on part du principe que bon, il s'en va dans 2 ans, quoi.
2 ans et demi, en fait, et 6 mois à l'échelle de Trump, eh bien, ça compte. En Iran, justement, Trump voulait provoquer un changement de régime et un régime qui était en place depuis des décennies.
Sauf que là, ils ont nommé un nouvel ayatollah, les Iraniens. Donc, de toute façon, à mon avis, il va y avoir un enlisement. Les Iraniens apparaissent quand même comme déterminés parce que le ministre des Affaires étrangères iranien, il a pas exclu ça se fera jamais, mais il a pas exclu la possibilité d'éliminer Trump, lui, de la même manière que Trump a éliminé Khamenei. Donc ils ont quand même une capacité de résistance que peut-être les Américains ont sous-estimée.
S'il avait eu le prix Nobel de la paix, tu penses qu'il aurait déclenché la guerre à l'Iran?
Bonne question.
C'est vrai qu'on peut se poser la question. Il le voulait tellement, ce prix Nobel, lui qui se vantait d'avoir stoppé cette guerre. Est-ce que le fait de ne pas l'avoir eu a pu jouer dans cette entrée en guerre des États-Unis ? Ma dernière rencontre, c'est ce monsieur.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Adèle.
Adèle, vous avez quel âge ?
J'ai 67 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Vous habitez où ?
Je suis retraité. J'habite à Tunis. Je suis de passage en France.
Pour Adèle, pas de MIGA.
Non, et lui, il défend les intérêts américains. De par le monde, il s'en fiche. Regardez ce qu'il a fait au Venezuela. Il y a un droit international qu'il faut respecter quand même.
Sauf que là, il est lâché par ses propres soutiens. Même dans son camp, on commence à dire mais on n'avait pas dit
qu'il ne voulait pas faire la guerre. Bien sûr, je pense que dans la société américaine, il y a des gens qui sont conscients de. C'est grave ce qui se passe. Et je pense qu'on est en train d'entrer dans une ère un peu dangereuse. Hein. C'est une poutrière, le Moyen-Orient. Il faut faire attention.
Les États-Unis, l'Iran, Israël, le Liban, l'Irak, les Kurdes, puis Dubaï, le Qatar. Dans cette région où chaque conflit peut en appeler un autre, où chaque frappe peut entraîner une riposte en chaîne, une chose est sûre, Trump n'a pas simplement fait une frasque de plus, une folie de plus, une ingérence. Trump, en attaquant massivement l'Iran depuis le 28 février dernier, a tout simplement mis le feu aux poudres.
Merci Quentin. Gilles Gressani, je rebondis sur ce que disait Adèle. Il y a du droit international. Alors déjà, on a l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de droit international. Il n'y a même plus de droit constitutionnel, puisque aux États-Unis, Trump a attaqué l'Iran sans consulter le Congrès, je crois.
Oui, effectivement, ça fait partie vraiment de la manière dans laquelle il faut concevoir la manière. Donald Trump a un visage de pouvoir d'une manière très particulière.
Pour le moins.
Oui, mais ce qui est très étonnant, c'est que c'est assez nouveau quand même. Enfin, déjà, c'est son deuxième mandat. Et c'est intéressant parce que le premier mandat, on se rappelle, il était très chaotique. Il y avait quand même toujours cet effet spectaculaire, on suivait constamment, mais il y avait très peu d'actes aussi profonds, vous voyez. Dans ce deuxième mandat, on a l'impression qu'il y a quand même le script, cette espèce de série télé qu'on voit chaque jour, The Apprentice in the White House, en fait, a aussi des effets sur le monde réel. Et là, je pense que c'est parce que, en fait, il n'est pas seul. Lors du premier mandat, il avait pris le parti, mais il avait pris un peu à contre-cœur. Les institutions étaient en place. Il y avait plusieurs personnes qui essayaient de mitiger son action. Là, en fait, il est arrivé au pouvoir avec une élite. Et je pense que c'est un mot important à garder. C'est pas du tout le populisme tel qu'on se le représente. En fait, il est avec les hommes. D'ailleurs, c'est plus parce que c'est toujours que des hommes, les plus riches de la planète. Une partie plus tech, une partie plus, disons, grande finance et grande propriété. monétaire. Et de l'autre côté, il a une partie d'élite administrative et politique qui a envie de ce recentrement exécutif. Il a envie, au fond, de construire un système dans lequel le président des États-Unis est vraiment le seul réel souverain. Il y a personne d'autre. En Occident, fondamentalement, il y a des chefs d'État et de gouvernement factices qui doivent s'aligner.
Il y a des contre-pouvoirs aux États-Unis. Sont où ces contre-pouvoirs?
C'est là que c'est intéressant, parce que c'est une révolution qui n'a pas abouti encore, qui n'a pas fini son cycle. Donc, on voit bien qu'il y a aujourd'hui un risque, et c'est très, très évident. À chaque fois qu'on vote aux États-Unis, Donald Trump perd. Et on voit très bien... On ne voit pas très bien comment les midterms pourraient se solder à autre chose qu'un échec pour Donald Trump. Ce qu'on ne voit pas très bien, par contre, c'est comment on met un terme à une présidence de Donald Trump. Est-ce que ça peut se faire d'une manière linéaire? Est-ce que ça peut se faire d'une manière pacifique? Alors même que lui-même le dit, le risque pour lui et son clan, c'est la prison, voire pire.
Oui, bien sûr. En
un mot, il aurait attaqué le 28 février dernier l'Iran massivement s'il avait eu le prix Nobel de la paix. Ça leur aurait fait du mal en termes de com'.
Mais moi, je pense qu'à un mot, ça montre à quel point nous sommes tous totalement pris dans le spectacle de Donald Trump. Cette question est absurde. Mais en fait, la force de Trump, c'est que des questions totalement absurdes, ben, on y pense tout le temps. Et Donald Trump n'est pas une figure politique. C'est ça, moi, je pense que c'est très important. Il joue dans la psychologie des gens le rôle d'une star du foot ou d'une star du cinéma. Il est présent même pour les dépolitiser. Si vous êtes français et vous ne connaissez pas le nom du Premier ministre, vous ne connaissez pas la différence entre le Sénat et l'Assemblée nationale, Donald Trump, lui, vous le voyez tous les jours, plusieurs fois par jour. Vous en parlez avec vos copains, vous fâchez avec lui. Et donc, il est en train de politiser le reste du monde. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, cette casquette rouge, ce Coca Light, cette peau orange pas possible, ces cheveux incroyables, ben en fait, ils finissent par devenir une espèce de caricature gaulliste. C'est presque le rêve, le cauchemar rêvé du gaullisme, du méchant américain, et ça produit des effets. En fait, aujourd'hui, une majorité des personnes, on l'a vu, on a fait un sondage très intéressant dans le Ventilant, on voit qu'en fait, il y a une majorité d'Européens, y compris au centre-droite, et que c'est très clivé l'espace trumpiste, qui disent ça suffit, on doit pouvoir dire non, on doit pouvoir mettre un terme à cette espèce de tentative de vassalisation de plus en plus brutale.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Alors qu'on zoome aujourd'hui sur la nouvelle obsession de Donald Trump, MIGA, Make Iran Great Again, il s'agirait de ne pas oublier que les États-Unis n'ont pas attendu l'hubris de Trump pour déclencher des guerres ou des opérations spéciales très borderline vis-à-vis du droit international. Cyril, qui a longtemps bossé à la CIA, peut en témoigner. Nixon l'a souvent envoyé en mission.
J'ai besoin de ton aide pour écraser la menace rouge.
Les communistes, hein ?
Bien sûr, Cyril. Go, go, go ! Voici donc un quiz spécial opération d'ingérence chelou de l'oncle Sam. Jouons au Zoom Zoom Test. Un quiz que je dédie évidemment à celui qui n'est pas bougon, têtu et borné, comme le lui reprochent si souvent Manon et Quentin. Il est juste en stress post-traumatique. Après tout ce qu'il a vécu à la CIA, souvenez-vous quand même que lorsque j'ai ramassé Cyril Lacarrière à la petite cuillère au pôle emploi de Ponto Congo, il était au creux de la vague.
Là-bas, je pilotais un avion de chasse. Je pouvais conduire un tank. J'avais en charge $1 million de matériel. Mais si j'arrive pas à avoir un boulot, gardien de parking.
Cyril était gardien du parking de Radio France quand j'ai décidé de prendre sa carrière en main.
Il s'est mis au Dragonal.
Oui, vous avez vu, ça marche bien. Bref, retraçons ensemble ces opérations de la CIA dont les États-Unis ne sont pas fiers. On commence en 1954 au Guatemala. Oui, j'entends vos soupirs consternés, mais ne vous en déplaise, le Guatemala n'est qu'à 1000 petits kilomètres du Mexique, donc ça marche très bien.
Mexican Dance. Nous sommes
au Guatemala. En 1954, la CIA est à la manœuvre derrière un coup d'État pour destituer le président Jacobo Arbenz Guzmán, qui a eu le tort de contrarier le business de la United Fruit Company, de vouloir aider les pauvres, ou d'instaurer un menu vegan dans les cantines guatémaltèques.
B.
A.
Il peut y avoir plusieurs réponses.
A et C.
C'est une mauvaise réponse pour tout le monde, c'était les réponses A et B.
J'ai dû le dire.
Non, vous avez dit B et C.
C'était Jacob ou Jacobo?
Je ne sais pas. En voilà une belle histoire qui vous donnera envie de renfiler vos casquettes MAGA en 54. Le nouveau président du Guatemala, le célèbre Guzman, est un illuminé. Pire, un illuminé gauchiste qui décide d'offrir aux plus pauvres de ses citoyens 90 000 hectares de parcelles de terre non cultivées rachetées à la United Fruit Company au prix de $3 l'hectare. Un beau geste qui va se heurter au fait que le directeur de la CIA à l'époque avait des billes dans la boîte. Ajoutez à ça la démarche quasi communiste de Guzman et vous comprendrez que la CIA décide d'armer 400 combattants qui pousseront le président à la démission et le pays redeviendra une république bananière, tout est bien, qui finit bien. Mais restons en Amérique du Sud avec l'opération Condor. vous conseille d'ailleurs en passant Les Trois Jours du Condor de Sidney Pollack avec Robert Redford. C'est presque aussi bien que Le Marsupilami. L'Opération Condor. L'Opération Condor, c'était un programme coordonné d'assassinats et de lutte anti-guérilla, conduite conjointement par les services secrets chiliens, argentins et boliviens sous l'impulsion de l'inoubliable général Pinochet. Un beau succès grâce à l'aide des États-Unis qui ont, d'après vous, organisé des séminaires à la formation à la torture, fourni les bases de données sur les opposants politiques ou permis l'élimination de 60 à 80 000 opposants.
Les trois ?
Les trois, mon colonel, mon général, Pinochet étant général, MDGA, Make Dictature Great Again, c'était la devise des États-Unis à l'époque où les régimes communistes menaçaient de s'installer en Amérique du Sud. À noter que le rôle exact des États-Unis dans cette opération Condor a été révélé grâce à une déclassification de documents sous Bill Clinton, toujours dans les bons coups, émoji clin d'œil, je suis Jeffrey. Et justement, direction maintenant les États-Unis au début des années 80, le second mandat de Ronald Reagan, The Real Golden Age of America, selon Cyril. À l'époque, les États-Unis veulent à tout prix renverser le nouveau gouvernement nicaraguayen qui vient de virer un dictateur. Washington perçoit ce nouveau régime comme une menace communiste et redoute un effet domino sur les pays voisins. Pour déstabiliser, faire tomber le nouveau gouvernement sans s'impliquer militairement, l'oncle Sam va financer la lutte armée des rebelles assez finement. D'après vous, comment ? En détournant les fonds de l'aide alimentaire des États-Unis à l'Éthiopie, pas ouf. En revendant aux cartels colombiens leurs propres drogues saisies par la DEA, astucieux. Ou en vendant des armes à l'Iran, pourtant sous embargo, comme quoi les temps changent.
B ?
Les trois ?
C'est fou, Manon. Vous aviez la bonne réponse en bout.
Ah bah c'est alors.
Vous avez c'est la bonne réponse, Manon. Ah, vous êtes un peu guidé.
Ah, c'est fou, ça.
Perfides,
c'est pas entendu.
Perfides américains. Vendre des armes à l'Iran malgré l'embargo pour déstabiliser le Nicaragua, il fallait y penser. Surtout ne rien dire au Congrès qui, lui, venait de s'opposer à toute intervention américaine au Nicaragua. Enfin, ça aura au moins permis à Cyril d'apprendre l'espagnol. Et pour terminer ce quiz, direction ce pays que vous connaissez bien si vous avez regardé la saison 8 de Koh-Lanta, les Philippines. Ah, les Philippines, sa nature inviolée, ses forêts verdoyantes, ses lagons bleu turquoise. Et en 1950, ses pourritures communistes. Qui grouillent dans la jungle. Les rebelles Hooks, qui donnent du fil à retordre au bon président Ramon Magsaysay.
Il faut s'entraîner avant.
Ramon Magsaysay.
Oui. C'est comme Jacobo.
Magsaysay, c'est son nom, qui va logiquement faire appel aux États-Unis pour l'en débarrasser de cette vermine communiste. Washington lui envoie alors Edward Lansdale, un publicitaire, qui va devenir conseiller militaire auprès du président philippin, mais qui est surtout un agent de la CIA, expert en manipulation psychologique. C'est même lui qui aurait formé Cyril Lacarrière. D'après vous, quelle rumeur va faire courir ce Lansdale pour effrayer les rebelles communistes ? Que la jungle philippine est hantée par un vampire ? Que l'eau des rivières philippines rend stérile ? Ou que les Américains possèdent une machine à contrôler les tempêtes ?
B.
Ah, vous n'êtes pas d'accord, ça c'est bien ?
Oui.
Vous n'êtes pas d'accord, vous dites quoi, Quentin ?
Ah,
ça nous arrive, hein.
Une histoire de vampire ?
Je sais pas.
C'est une bonne réponse.
Ah non.
Afin d'éloigner 300 résistants d'un lieu stratégique, le rusé Lansdale fait courir la rumeur de la présence d'un Aswang, créature du folklore philippin proche du vampire, en déposant le cadavre d'un homme auquel il a astucieusement ajouté deux trous dans le cou et en le suspendant à l'envers pour que le sang s'écoule. Voilà comment ça s'est joué. Défaite de la morale, victoire de Quentin, lui !
C'est fou !
Première victoire.
En plus, un jour où vous découvrez votre texte, visiblement.
Oui, vraiment, oui.
Ça ne vous arrive jamais de ripper, Quentin ? Vous
jamais. Écoute,
j'ai pas ripé.
Très bien. J'ai 15 000 sons qui s'appellent Quentin, Bafouille, ben Quentin, oui. Savon.
Oula,
vous pensez qu'il n'existe pas de vous ?
Je vous retire votre victoire. C'est Manon qui remporte le quiz. Manon remporte le quiz.
On peut remettre les applaudissements.
Oui, bravo. Miga.
Merci.
Make Iron Great Again. Gilles Gressani, essayiste, analyste politique et directeur de la revue Le Grand Continent, est toujours avec nous pour comprendre comment Trump peut reprendre la main, notamment dans l'opinion publique américaine, quelque peu lassée par ses velléités belliciste. Un mot peut-être, Gilles, de cette démission fracassante, celle de Joe Kent, un haut responsable au contre-terrorisme, qui a claqué la porte. En gros, il reproche à Trump de faire la même chose qu'en Irak, quoi, de se planter de la même manière.
Oui, et la chose qui est la plus remarquable, c'est que c'est la première fois qu'il y a une démission de ce niveau-là depuis que Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Au fond, dans ce nouvelle Maison-Blanche, on a quand même des positionnements politiques qui sont extrêmement différents. C'est, en fait, c'est entre eux, on fait un deal avec l'Iran et on bombarde l'Iran. Mais jusqu'à présent, tout le monde restait. Il y avait très peu de leaks, très peu de fuites. Mmh. Les fuites sont souvent un indicateur du fait qu'il y a quand même une administration qui est tenue, parce que ça signifie que la plupart du temps, quand on fait un leaks, c'est qu'on veut faire jouer l'extérieur à l'intérieur. Donc on veut utiliser l'opinion publique ou les journalistes pour faire de l'influence sur un processus interne qu'on considère qu'on est en train de perdre. Ce qui est intéressant, c'est que là, effectivement, pour la première fois, émerge une vraie divergence. Ça a été anticipé en réalité par une prise de parole extrêmement dure, il y a deux jours, par David Sachs, qui est défini par le tsar de crypto et de l'IA. En fait, c'est la personne qui, pour faire simple, a été nommée par le président des États-Unis comme conseiller spécial à la Silicon Valley pour gérer les relations avec l'intelligence artificielle, les géants de l'intelligence artificielle et les cryptos. Et David Sachs a fait un podcast particulièrement dur dans lequel il a dit qu'il s'agissait de, au plus vite, trouver une solution pacifique et donc fondamentalement négocier une paix avec l'Iran, que le risque d'escalade était trop grand. Sous-entendu, c'est très grave pour le modèle économique de l'intelligence artificielle que le Golfe explose. Et on voit bien que cette espèce de divergence profonde qui, en fait, rejoue aussi des positionnements différents. J.D. Vance a presque disparu. On a presque l'impression que c'est la série VIP en temps réel. Et là, on imagine un J.D. Vance qui se cache, qui essaie de ne pas trop apparaître. Il était très présent. Aujourd'hui, il a du mal parce que c'était quand même le cœur de ses promesses, le fait de ne pas être une puissance qui s'embourbe dans des conflits à l'extérieur. Et on voit aussi que, en réalité, même Marco Rubio, sur l'Iran, est beaucoup moins présent que ce qu'on pourrait penser. Ceux qui sont vraiment très présents, c'est Jared Kushner et Steve Witkoff, c'est-à-dire le gendre, et l'homme d'affaires du président des États-Unis. Donc en fait, on n'est pas du tout dans un cadre, disons, formel de fonctionnement de l'État, on est vraiment dans un cadre de clan. En fait.
Et justement, vous dites quelque chose d'intéressant, vous dites que Trump glisse petit à petit du populisme au néo-royalisme. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, quand on dit néo-royalisme, en France, on a l'impression qu'on parle... Vous voyez, en fait, en réalité, pour les Américains, le roi, c'est vraiment quelque chose qui ressemble beaucoup plus à... vous voyez, un barbare visigoth qui boit dans son casque un acier du sang des ennemis, quoi. Ils ont cette vision de George III, qui est pourtant un roi constitutionnel assez ralenti par son parlement. C'est le roi contre qui ils ont fait la révolution, comme étant d'un tyran terrible. Et c'est une notion qui vient de théoriciens contemporains des relations internationales, Goddard et Newman, qui, dans le néo-royalisme, ils entendent vraiment ça. C'est plutôt, effectivement, le clan, l'empire. Et c'est ça qui est très intéressant avec Donald Trump, c'est qu'en fait, il est en train d'appliquer une logique qui, en fait, en réalité, une sortie de l'intérêt national et une entrée dans quelque chose de différent. En fait, c'est Donald Trump a mis au service de lui-même et de sa cour et de son clan la première puissance militaire au monde pour optimiser ses gains, pour s'enrichir, beaucoup plus qu'en fait pour suivre une logique qui est une logique démocratique de contentement et de représentation de l'opinion publique.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. L'heure de la pièce jointe de Manon Mariani.
Quatre lettres aujourd'hui, taco, comme le délicieux plat mexicain. Sauf qu'ici, c'est un acronyme politique qui circule beaucoup aux États-Unis ces derniers temps pour se moquer de ce cher Donald Trump. Car taco, ça veut dire Trump always chickens out. En français, Trump se dégonfle toujours. L'expression a été inventée par Robert Armstrong, éditorialiste au Financial Times. Il l'a utilisée pour décrire un schéma qu'emploie beaucoup le président américain. Il annonce régulièrement des mesures économiques très agressives, comme des droits de douane massifs, puis il finit par les suspendre ou les adoucir quand les marchés financiers commencent à vaciller. Il a par exemple menacé l'Union européenne de 50% de taxes sur certaines importations avant de suspendre la mesure après un appel jugé très constructif avec Ursula von der Leyen. Même scénario avec la Chine, il a annoncé des droits de douane très élevés, puis il les a largement abandonnés quelques semaines plus tard. Résultat, sur les marchés, certains investisseurs parlent désormais de stratégie taco. L'idée est carrément devenue un pari financier. Quand Trump annonce une mesure choc, les marchés chutent, puis il remonte quand il fait marche arrière. Donald Trump, vous vous en doutez, déteste ce surnom. Une journaliste l'a interrogé à ce sujet. Il a répondu énervé « Moi, me dégonfler, je n'ai jamais entendu une chose pareille ». Selon lui, ces revirements ne sont pas des reculs, mais une méthode de négociation menacée très fort pour obtenir ensuite des concessions. Et depuis, l'expression a quitté les pages économiques pour envahir les réseaux sociaux. Certains l'utilisent pour commenter sa manière de gérer les crises internationales, annoncées très fort, désamorcées plus tard, notamment dans ses relations avec la Russie, avec Vladimir Poutine. Trump a tendance à faire des discours où il promet de ne rien lâcher face au président russe pour au final annuler des rencontres avec lui ou revenir sur ses propos. Alors, est-ce que Trump est une poule mouillée? Le problème, c'est que c'est une poule mouillée avec l'arme nucléaire et le cerveau d'un gamin de 15 ans.
Ah, c'est vous qui le dites, Manon.
C'est moi. Ça n'engage que moi.
Est-ce que là, il roule beaucoup des mécaniques, mais est-ce qu'au fond, c'est une poule mouillée, Donald Trump?
En fait, il y a une chose que plusieurs de ses conseillers nous ont raconté dans nos pages du Grand Continent, c'est qu'au fond, Trump, il utilise cette énergie spectaculaire qui, en fait, est vraiment impressionnante. C'est le spectacle permanent. L'élite autour de Donald Trump aujourd'hui utilise l'énergie spectaculaire de Donald Trump pour transformer le système. Trump lui-même, on voit bien qu'il a un rapport avec la guerre, avec le changement, qui est particulier. Enfin, il n'a pas fait son service militaire. En fait, il fait plus la guerre au passé simple qu'à l'imparfait. Vous voyez, c'est plus un acte qu'une durée. Il a quand même du mal à rentrer dans le registre du tragique. Il a toujours besoin d'être dans ce registre de l'ironie. Mais autour de lui, en fait, il y a désormais un groupe de personnes qui est assez structuré, qui a un visage tout à fait de prendre le pouvoir. C'est les géants de la tech, de transformer en fait radicalement le système. Et c'est là qu'il y a un peu un équilibre instable, et on le voit en ce moment sur l'Iran. On voit bien qu'aujourd'hui, il est pris dans un entre-deux. Il faudrait sans doute aller plus loin désormais pour aboutir à ses objectifs de guerre. Mais aller plus loin, ça impliquerait faire la guerre, entre guillemets, sérieusement, c'est-à-dire en amenant des troupes au sol, en assumant l'escalade. Et on voit bien que sur ça, il hésite. Il a toujours envie de pouvoir dire la guerre finira demain ou après-demain, précisément parce qu'il reste dans un geste télévisuel.
Zoom, zoom, zoom. Mathieu Noël.
48 heures ont été nécessaires à Pierre Courade pour redescendre de ce que Cyril appelle son petit nuage gauchiste. Suite au résultat du premier tour des municipales à Paris, où son poulain Emmanuel Grégoire arrive largement en tête devant Rachida Dati et les autres tocards, comme il dit, c'est même le printemps Grégoire, s'est exclamé Pierre, avant de monter sur son bureau en hurlant. Je suis le Alors attention, il reste un deuxième tour quand même, et ça s'annonce plus compliqué que prévu. En attendant, merci de nous résumer tout ce qu'on s'est dit sur MIGA en une minute chrono.
Il est long cet entre-deux-tours, effectivement. En attendant, on a parlé de MIGA, Make Iran Great Again, rendre sa grandeur à l'Iran, acronyme inspiré du slogan de Donald Trump, MAGA, rendre sa grandeur à l'Amérique. MIGA est devenu un cri de ralliement à la cause iranienne, ou plutôt à la guerre en Iran, lancée par les États-Unis et Israël. Un slogan simple pour permettre aux électeurs de Trump d'adhérer à cette opération militaire lointaine et hasardeuse, alors que leur candidat avait promis de ne plus s'aventurer à l'extérieur des frontières des États-Unis. Et cette confusion commence à créer des tensions au sein du camp trumpiste. Gilles Gressani, le brillant directeur de la revue Le Grand Continent, était avec nous. Il nous a expliqué qu'en fait, MIGA a été lancé par Trump en juin sans avoir en tête une guerre, mais plus dans une logique d'opération spéciale. On décapite le régime iranien et on laisse la population prendre le pouvoir. Finalement, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu, si tant est que quelque chose ait été prévu. Ainsi, des influenceurs MAGA comme Nick Fuentes commencent à prendre leur distance avec Donald Trump. Pour le moment, peu d'impact dans les sondages sur la base des électeurs trumpistes. C'est pour notre invité le spectacle permanent offert par Donald Trump qui donne au change, en tout cas pour le moment. Élu sur le pouvoir d'achat et l'arrêt de la guerre, il utilise l'armée pour appuyer son discours politique, menace sur Cuba, sur le Groenland, opération éclair au Venezuela. Mais jusqu'où pourra-t-il aller pour masquer son échec économique? C'est la question que se pose notre invité et nous avec lui.
Merci beaucoup Pierre, c'était presque une minute. Enfin, il n'a pas encore signé d'édito dans Le Grand Continent et pourtant, c'est au tour de Jesse de nous faire à présent un petit topo sur le conflit au Moyen-Orient.
Mais bonjour à tous, et en effet Mathieu, maintenant la guerre en Iran, mais en mode fun. Vous m'aurez tout fait, hein. Vous voulez vous débarrasser de moi, c'est ça, avec des thèmes comme ça, en plus la semaine prochaine le Hezbollah. Franchement, je savais que ça me jouerait des tours d'être le chroniqueur le plus intelligent. C'est pas de ma faute, hein, si vous avez le charisme d'une huître. J'avais écrit d'un pruneau, et que personne écoute vos chroniques. Voilà, les gens confondent Pierre et Quentin, non. En fait, hein, alors qu'il y en a un en stage et l'autre en EHPAD. Pas besoin de préciser lequel. C'est toi, Pierre, en EHPAD. Alors, puisque le monde entier est suspendu à mon analyse sur le conflit en Iran, et je comprends, j'ai quand même une licence en études théâtrales et un plan cul libanais. Le Liban, c'est pas l'Iran, mais c'est pas de ma faute, hein, si j'ai rien sucé de plus proche. Mon analyse donc sur l'Iran, so far, so not good. Ah voilà, j'adore parler anglais, pas comme Pierre visiblement. Pour que les gens comprennent enfin que la France est très petite pour mon talent. Alors, l'effet le plus désastreux de ce conflit, c'est évidemment Manon, hein, qui se prend pour une reporter de guerre depuis qu'elle a fait une chronique sur le blackout à Téhéran. Je vois bien que tu te rêves avec un gilet pare-balles avec écrit presse. Oui. Et toi, mon cœur, oui, mais ton pic d'adrénaline, c'est ton cardio-fessier à 19h. Alors, retombe un peu, hein. Voilà. T'imagines, en zone de guerre, les mecs qui combattent, t'as la Marianoche qui arrive. C'est pour mon podcast! Je plaisante. Mon cœur, une bombe peut rien faire à une autre bombe. Ça me fait plaisir.
Donc, quoi, c'est
le seul effet positif de cette guerre, c'est pas ma faute si l'invité fait des phrases à rallonge. Le seul effet positif de cette guerre, c'est que ça fout le dawa chez les magas. Hein, qu'on dirait une chanson de Mano. Chez les magas, c'est le dawa, dalidada. ça. Qu'est-ce que je fous là, à gâcher mon talent, à gâcher mon talent alors que je pourrais faire The Voice. Franchement, que des mauvais choix dans ma carrière. Donc, les Trumpistes sont tout divisés. T'as ceux qui sont contre la guerre, hein. Ça l'avait quand même pas vu venir. Enfin, la guerre à l'extérieur, hein, parce que sinon ils sont toujours en mode Yas, Team Civil War. Il y a aussi les vrais durs, hein, qui sont là. Ok, la guerre tant qu'on tue des Arabes. Pardon, on m'informe dans l'oreillette que Sarah Knafo voudrait reprendre le slogan. Et enfin, on a ceux qui disent alors la guerre, en fait, il faudrait qu'elle soit votée par le Congrès. En fait, trop mimes, les petites puces MAGA qui découvrent la Constitution. Hein, hâte qu'ils découvrent un autre concept, la justice. Et très marrant aussi, ceux qui font la guerre sont appelés les faucons, du nom du rapace, évidemment. Hein, sinon, ça reste des vrais cons. Alors, la Trump, elle fait quand même pas trop sa maligne. Là, à chaque allocution, elle bégaye en togolais. Hein, enfin, plutôt en hébreu, pour ceux qui disent que c'est la guerre d'Israël. Hein. Mais en fait, ça, c'est parce que America First, il y avait un petit astérisque que personne ne voit jamais. Et ça ramène à un QR code. Et quand tu l'actives, ça fait Yahabi, Ubi Tel Aviv. Voilà. Il faut faire attention. Hein. Oui, c'est une chronique chantée. Oui, c'est une chronique chantée.
C'est beaucoup de choses.
Voilà. Faut faire attention. Quand on met son bulletin dans l'urne, faut tout bien lire, quoi. Après, je parlerai pas plus d'Israël. J'ai flemme de finir chez Nova. Voilà. Bah, je veux bien être de gauche, mais faut pas abuser non plus. Hein. J'aime les SUV et les douches. Allez, je vous laisse. Je dois organiser un combat d'oiseaux entre des faucons et mes collègues. Je me demande qui va gagner entre des faucons et des grosses buses.
Eh ben, dis donc, on a appris pour notre grade, mon cher Jesse.
Très en forme, une réaction. Non, aucune, ils sont très mal.
C'est pas nouveau. Merci quand même, Jesse. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom. Et du 3 au 27 juin au Théâtre des Mathurins à Paris. Il reste étonnamment très peu de place. Et en tournée partout en France. Toutes les dates, c'est sur icigc.com. Merci beaucoup, Gilles Gressani, de nous avoir éclairé sur l'impact électoral de la nouvelle obsession de Trump. Make Iran Great Again. Je suis influencé par Pierre Courage. Bah oui. Il a tellement mal dit.
Mais enfin, ça, comment ça, j'ai mal dit.
Il est ronchon, là.
J'ai mangé avec rendre son honneur à l'Iran. Voilà, c'est
je rappelle, Gilles, qu'on peut vous lire dans l'excellente revue Le Grand Continent. Merci d'avoir été avec
nous. Merci à vous. Zoom, zoom, zen.